Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Delphine.
Et bonjour à tous. Moi, je voulais d'abord remercier Anne-Laure d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui pour présenter en commun notre expérience autour de ce projet de sensibilisation des fonctionnaires communaux à la question de l'illettrisme. Alors, on a fait connaissance en janvier 2022. Ça va bientôt faire 2 ans, lors de cette première vague de sensibilisation formation à l'illettrisme, organisée donc en partenariat avec la ville de Nivelles. Et en effet, donc en tant que responsable de projet en sensibilisation à l'illettrisme, mon travail m'amène à rencontrer toutes sortes de personnes qui sont susceptibles d'être en contact de première ligne avec des personnes, des adultes en grande difficulté de lecture et d'écriture, et donc d'améliorer la prise en compte des personnes illettrées au sein de leurs services et donc l'accessibilité à leurs droits. Alors donc, tu me confirmes, vous étiez bien 9 à cette première vague de formation sensibilisation.
Oui, c'est ça. Donc, pour la ville de Nivelles, il y avait 9 personnes, parmi lesquelles il y avait des chefs de service, il y avait un agent du CPS, il y avait un gardien de la paix. Et pour ma part, donc je suis médiatrice dans le cadre des sanctions administratives communales. Alors, je travaille pour la ville de Nivelles, mais je travaille aussi pour 18 autres villes et communes de la province du Brabant Wallon qui ont signé une convention de collaboration avec la ville de Nivelles. Alors, pour que chacun vive en toute tranquillité et en toute sécurité dans sa ville, dans sa commune, bien, des règles doivent exister. Et ces règles, elles touchent à tous les domaines de la vie quotidienne. On en a en matière de bruit, en matière de déchets, de dégradation, de souillure de la voie publique, de consommation d'alcool sur la voie publique. Et toutes ces règles, elles sont mises noir sur blanc dans un document, un texte écrit, qu'on appelle le Règlement général de police. Et donc, c'est un texte qui va reprendre toutes ces règles pour avoir une vie en société qui est harmonieuse. Et la conséquence, si on ne respecte pas ces règles, c'est que l'auteur du comportement qui est interdit, il risque de devoir payer une amende. Il risque d'avoir une sanction financière qui va être perçue par la ville dans laquelle les faits se sont déroulés. Et la médiation, c'est une alternative à l'amende. Donc la personne qui est auteur du comportement interdit, elle a la possibilité d'éviter de payer l'amende si elle participe à une médiation. Et donc moi, je définis la médiation pour laquelle je travaille comme un espace de parole au sein duquel les parties concernées, donc l'auteur de l'infraction mais aussi sa victime, elles vont pouvoir s'exprimer en toute confidentialité sur la situation qu'elles ont vécue, sur ce qu'elles souhaitent, sur ce qu'elles rendent et sur ce qu'elles ressentent. Et le but, en fait, c'est qu'elles trouvent un accord, un arrangement à l'amiable. Comme je la définis, on voit déjà que la médiation, c'est pas qu'une alternative à l'amende, c'est vraiment bien plus vaste que ça, parce que c'est vraiment un outil qui va permettre aux citoyens de s'impliquer eux-mêmes dans la résolution de leurs conflits. L'auteur des faits, lui, il va pouvoir être confronté aux conséquences de ses actes et éventuellement indemniser la victime qui est concernée. Et la victime, elle va être reconnue, elle va être prise en considération et elle aura une possibilité d'avoir une réparation de son dommage. Et je précise aussi que la médiation, c'est vraiment aussi un outil qui va permettre de recréer les liens entre les citoyens eux-mêmes, mais aussi entre les citoyens et l'administration et les citoyens et la police. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'espace où les personnes peuvent se parler. La médiation, c'est un de ces espaces qui est encore à disposition. Et pour la petite histoire, moi je suis juriste de formation et ma devise à l'époque, et c'est d'ailleurs toujours le cas maintenant, c'était la reconnaissance et le respect des droits et des devoirs de chacun. Et dans ma fonction actuelle, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en place des pratiques de travail qui vont me permettre d'alimenter cette valeur. Mais ce dont je me rends compte aussi, c'est que le domaine spécifique dans lequel je travaille, les sanctions administratives, c'est un domaine très particulier, très complexe, où on va utiliser un vocabulaire très spécifique, un peu barbare, et où les procédures, elles se font quasi exclusivement par écrit. Et clairement, si je n'ai pas des pratiques de travail qui sont adaptées, notamment pour le public illettré, ça va d'office créer des discriminations. impossibilité pour la personne de faire valoir ses droits, et notamment ses droits à la défense, le droit de dire « je ne suis pas responsable du comportement dont on m'accuse » ou de vouloir donner des explications, des circonstances, mais aussi l'impossibilité d'exercer éventuellement ses devoirs, notamment en demandant une médiation et en étant impliqué dans un processus où on va aller vers une responsabilisation et vers éventuellement une indemnisation de la victime. Et donc ce que je vais illustrer juste après justement, c'est les pratiques que je suis occupée à mettre en place pour ben voilà, adapter notamment au public donc illettré et pour que chacun ait accès à ses droits et à ses devoirs.
Alors, comment est né, en fait, ce projet de sensibiliser les personnes qui travaillent dans les administrations communales? Pendant les confinements liés à la crise Covid, mes collègues formateurs en alphabétisation et agents d'accueil et d'orientation ont mis plein de choses en place pour garder le contact avec les apprenants qui suivent nos formations. Et ils ont été submergés de demandes d'aide pour entrer en contact avec les services essentiels comme les CPAS, l'ONEM, les syndicats, même les banques, etc. Et donc ça, c'était évidemment un premier gros constat à l'époque. Et donc Lire et Écrire Brabant Wallon s'est associé à d'autres associations de la province pour écrire une lettre ouverte à l'ensemble des responsables de ces services essentiels pour dénoncer combien c'était compliqué pour les personnes en situation d'illettrisme d'avoir accès à leurs droits quand ils sont obligés de passer par un mail, une prise de rendez-vous par téléphone, etc. Alors, avant ça, on avait déjà eu une première expérience de collaboration avec la ville de Nivelles qui avait voulu faciliter l'inscription à la plaine de vacances communale en rendant le formulaire plus facile à lire et plus facile à compléter pour les familles. Et donc, on avait travaillé avec le service Accueil Temps Libre et c'était un groupe d'apprenants chez nous qui avait relu le formulaire, qui avait proposé des simplifications et des adaptations. Voilà, et donc suite à cette lettre ouverte, à cette première collaboration en amont, on a rencontré l'échevin de l'inclusion, des droits humains, de la culture, voilà, il cumule plusieurs thématiques comme ça, et lors de cette réunion, eh bien, on a construit ensemble une proposition de partenariat avec à la clé donc ces modules de sensibilisation, formation pour les travailleurs de l'administration communale de Nivelles. Et donc ça a débouché d'abord par une sensibilisation des chefs de service, encore en visioconférence à l'époque. Je pense que ça avait duré une heure pour présenter un peu notre projet et argumenter en fait notre démarche. Et donc au final, entre cette réunion avec l'échevin et la première séance, le premier module de sensibilisation formation, il y a eu 1 an et 4 mois en fait d'aller-retour, de négociation, de prise de contact. Et donc, Nort, tu as fait partie du premier groupe, hein, de cette première vague de sensibilisation. Est-ce que tu veux bien partager ce que tu en as retiré?
Et même avant de parler de ce que j'ai pu en retirer, comment j'ai adapté mes pratiques, je voulais aussi expliquer pourquoi j'avais un intérêt, en tout cas j'ai marqué mon intérêt pour suivre la sensibilisation. C'est que déjà je suis consciente que je travaille dans un domaine, les sanctions administratives, qui est très spécifique, comme je l'ai dit, avec un vocabulaire très complexe. Et je me rendais aussi compte déjà qu'il y avait entre guillemets quelque chose qui n'allait pas quand je rencontre des citoyens qui me disent Je ne comprends pas ce qu'on me veut, je ne comprends pas le courrier qu'on m'a envoyé, ce qu'on me reproche, ce que je peux faire ou pas. Donc là, déjà, je me dis, il y a quelque chose qui marche pas. Et donc, j'avais envie d'avoir de l'information sur la réalité de l'illettrisme et puis surtout, après, d'en faire quelque chose et d'avoir des pratiques de travail adaptées. Et pour illustrer cette difficulté de compréhension dont ont fait part certains citoyens, je vous diffuse à l'écran, c'est un courrier qui est envoyé par une personne qu'on appelle le fonctionnaire sanctionnateur. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du fonctionnaire sanctionnateur ? Est-ce que quelqu'un sait qui c'est le fonctionnaire sanctionnateur ?
La police de la sanction.
Dites-moi.
À ma connaissance, c'est un fonctionnaire de l'administration communale qui administre ces fameuses sanctions administratives et qui est le point de contact si une sanction est entre guillemets proposée.
Voilà. Effectivement, vous avez raison. Moi, je l'appelle le juge communal. C'est un terme un peu moins barbare, mais ça illustre déjà que le premier terme que j'utilise, c'est un terme méconnu et un peu barbare. Et donc, le fonctionnaire sanctionnateur, c'est le juge au niveau de la commune.
Je me permets de vous interrompre parce que je pense qu'il y a un problème justement dans cette fonction, c'est qu'on mélange un petit peu tout, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, on n'a pas l'indépendance d'un juge quand on est fonctionnaire sanctionnateur.
C'est pour ça que vous avez raison que je le mets entre guillemets, parce que c'est adapté à l'administration et pas du tout au niveau du monde judiciaire. Et donc, c'est pour exprimer avec des termes plus simples de qui on parle. Mais vous avez raison, en tout cas, au niveau des subtilités. En tout cas, c'est une personne qui va adresser un courrier à une personne qui est suspectée d'avoir eu un comportement interdit au fameux règlement général de police. Et la personne reçoit alors ce premier courrier. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de lire les mots ou est-ce que c'est trop petit ?
Elle est gratuite.
En date ?
Est-ce que c'est en date ?
Mais c'est une procédure de
réveillation. Vous voyez déjà, en tout cas, des mots clés. Déjà, on voit qu'il s'agit d'un envoi recommandé. Ça, c'est un premier élément. On parle d'infraction. On parle du fameux règlement général de police. On parle de procès verbal. Il y a aussi des références législatives. On parle de la nouvelle loi communale. On parle de la loi de 2013 sur les sanctions administratives. On parle de la possibilité d'exercer ses moyens de défense. On voit qu'on a des phrases longues qui sont assez complexes. Et on voit aussi que la procédure, elle est casée exclusivement par écrit parce qu'on dit qu'on a la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, mais qu'il faut pour ça envoyer un courrier recommandé, ou alors qu'on a la possibilité d'être entendu, mais que pour ça, il faut en faire la demande par écrit. Donc, ce que ça inspire, c'est, là, en tout cas, ça vous montre déjà, quand on reçoit ce courrier, il y a déjà des éléments assez frappants, et je sais que toi, Delphine, tu voulais préciser certaines choses à ce propos-là.
Mais oui, parce que quand j'ai vu ce courrier, j'ai repensé... aux éléments mis en avant par le groupe Osons en parler, justement dans le numéro du journal de l'Alpha, qui est l'objet du séminaire aujourd'hui. Et donc, ils expliquent que c'est le genre de courrier administratif qui fait peur quand on ne sait pas bien lire et écrire, parce qu'il sous-entend ensuite d'agir, comme aller dans un bureau, faire des démarches et expliquer une situation personnelle où on n'a pas forcément envie de partager, notamment liée à sa situation d'illettrisme. Ça demande aussi parfois d'aller sur Internet ou de téléphoner, et en sachant qu'en plus, il peut y avoir des conséquences plus ou moins graves suite à ce genre de courrier. Voilà, je voulais juste faire le lien.
Effectivement, parce qu'on parle dans le courrier que c'est passible d'une amende, donc il y a le risque d'avoir une amende, donc effectivement ça fait référence à des conséquences qui peuvent être plus ou moins importantes. Et là, la conséquence, en fait, c'est que si ce courrier-là, ce premier courrier-là, on ne le comprend pas, eh bien, on est dans l'impossibilité d'exercer ses droits et ses devoirs. J'en reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on peut pas exprimer ses droits, éventuellement faire valoir donc ces fameux moyens de défense, dire qu'on n'est pas l'auteur de l'acte qu'on nous reproche. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas non plus décider de s'impliquer dans un processus de médiation qui permettrait éventuellement de réparer ou d'indemniser le dommage qu'on a causé. Pourquoi ? Ben parce qu'on ne comprend pas ce courrier. Et donc là, j'en viens à ma pratique de travail adaptée. Grâce à la sensibilisation que j'ai suivie, ben là, clairement, je me suis dit que je dois faire quelque chose dans ma pratique de travail. Et mon premier axe de travail, ça a été d'adapter le courrier que j'adresse moi-même. Donc, à la suite du courrier du fonctionnaire sanctionnateur, bien moi, je viens et je fais une nouvelle proposition de médiation. Et donc, j'ai souhaité adapter le courrier à la lumière de ce que j'avais pu apprendre lors de la sensibilisation. Et je vous précise que c'est un travail que j'ai effectué en collaboration avec les experts du vécu du service public intégration sociale. Donc, le service public intégration sociale, c'est également mon pouvoir subsidiant. Et les experts du vécu, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, ont vécu une situation de précarité ou d'exclusion sociale, et qui sont mises à disposition des institutions pour les aider et les accompagner, notamment dans des démarches de simplification administrative. Et donc, on a créé un groupe de travail. Il y avait 4 experts du vécu, un représentant du service public intégration sociale et moi-même. Et on s'est réunis pour 4 temps de travail, 2 fois 1h30 et 2 fois 2h. Donc, on voit que c'était un travail assez conséquent et qui a aussi été... très exigeant. Pourquoi ? Parce que le but, c'était pas de faire un courrier qui était infantilisant. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à des adultes. Et surtout, il fallait que ce soit un courrier qui s'adresse à tous les publics. Et aussi parce que dans mon travail, on est obligé de faire référence à des termes légaux très spécifiques. Je peux pas en faire l'économie. C'est la loi qui m'y oblige. Je dois aussi citer des lois bien spécifiques. C'est une contrainte, donc on est obligé de mettre certains mots, mais par contre, on peut les expliquer. Et c'est là alors qu'on a eu l'idée de créer un lexique, c'est ce que vous voyez, voilà, merci, en bas à droite, qui va définir les termes très spécifiques dont on ne peut pas faire l'économie, mais au moins on donne des explications, on explique de quoi il s'agit. On a eu aussi l'idée d'insérer des pictogrammes universels, et donc là on a le... Principalement, c'est le téléphone et le mail. Le but, c'est quoi ? C'est que la personne, elle ait le renvoi direct vers un contact téléphonique avec le médiateur et donc d'avoir un échange directement verbal avec le médiateur qui pourra, le cas échéant, ben, voilà, expliquer oralement la proposition qui lui est faite. Et on a aussi décidé de mettre en gras et en souligné certains mots-clés. Et donc là, on a fait référence au fait... à la date des faits, c'est parce que là c'est en grisé malheureusement parce qu'on a enlevé tous les champs qui pourraient renvoyer une personne, et donc la date des faits, on la met en évidence parce que ça peut permettre à la personne de se resituer dans le temps. Ah ben oui, ok, ça s'est passé au mois de juillet, ah oui oui, au mois de juillet je me souviens, effectivement il s'est passé quelque chose. On indique aussi que la médiation elle est gratuite, ça c'est aussi un élément très important, et donc on voit que certains mots-clés ont été mis en évidence pour attirer l'attention des personnes et leur permettre de se resituer dans ce qui s'est passé.
Merci alors. Merci pour cet exemple très concret. Alors, on avait envie de poursuivre avec vous, plutôt avec des éléments de réflexion par rapport à cette expérience de sensibilisation présentée sous forme plutôt de force et de faiblesse. En tout cas, de notre côté, du côté de l'Iréécrire, une des forces du projet, c'est le fait qu'il soit gratuit. Et ça passe beaucoup mieux au niveau des collèges communaux quand on propose quelque chose de gratuit. c'est gratuit parce que ce sont des actions qui sont financées par les pouvoirs publics. Et cette reconnaissance du travail de sensibilisation... elle a lieu depuis quand même de nombreuses années, et donc on a pu grâce à ça développer un réseau de partenaires sur le long terme, et donc l'émergence de ce projet est liée à tout ce travail qui a eu lieu en amont. Alors je voulais aussi pointer l'importance de sensibiliser tous les niveaux de pouvoir. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, il y a d'abord eu une rencontre avec un échevin. qui donc a fait une demande et a présenté le projet au niveau du collège communal. Et donc on a eu une première sensibilisation des chefs de service avant de s'adresser aux travailleurs de l'administration communale. Donc voilà, je pense que pour que ça marche, c'est vraiment important de pouvoir travailler avec tous les niveaux de pouvoir. D'autant plus que voilà, chaque commune est différente et que ce qui était aussi une force, c'était de pouvoir ici, donc on parle de la commune de Nivelles, mais en fait le projet il a continué avec d'autres communes de la province du Brabant wallon, et donc chaque fois l'enjeu était de trouver une personne de contact en interne qui pouvait être opérante pour nous aider à mettre sur pied ces séances de sensibilisation. Et ensuite, ben non, c'est tout, pour nous en tout cas. Après, je pense que tu avais aussi envie de mettre en avant certaines forces liées au projet.
Oui, c'est vrai que pour ma part, ma fonction particulière de médiatrice, elle me donne une certaine autonomie, et ça c'est une chance. Pourquoi ? Parce que je peux facilement adapter mes pratiques de travail. Parce que ça n'implique et ça ne concerne que moi. Donc, du coup, grâce à la sensibilisation, après, j'ai pu directement mettre en pratique voilà, ce qui m'avait interpellée, et, dans l'espoir que ce soit, en tout cas, dans de l'amélioration. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir, au sein de mon pouvoir subsidiant, donc le service public intégration sociale, des ressources, déjà, on va dire, qui étaient existantes en interne, un réseau, les fameux experts du vécu, qui ont pu vraiment m'appuyer dans cette démarche d'amélioration de mes pratiques de travail, et avec le résultat, le courrier adapté que vous avez vu. Et aussi, j'ai la chance, c'est de pouvoir diffuser mon travail auprès de mes autres collègues médiateurs, parce qu'il existe des médiateurs pour chaque arrondissement judiciaire ou zone de police à Bruxelles. Et donc, j'ai diffusé voilà, mon courrier adapté à mes collègues qui peuvent, s'ils le souhaitent, mais voilà, s'approprier aussi ce courrier et s'inspirer de cette pratique. Ça va dans les deux sens, évidemment, eux aussi, prendre de leur côté des éventuelles bonnes pratiques. Ça, c'est ce que je mets en évidence comme éléments qui ont facilité la mise en place chez moi.
Et alors, le fait que tu mentionnes le service public et les experts du vécu m'a amené à penser qu'en fait, la proposition qu'on fait de partenariat avec les administrations communales s'inscrit peut-être dans une espèce de tendance ou un courant plus large que Louise notamment a mentionné aussi dans son article avec la Commission européenne qui organise des campagnes en faveur de l'écriture simplifiée. Donc j'ai l'impression quand même que ça fait partie d'une tendance depuis quelques années. Et donc même si, comme l'avait écrit Louise, il n'y a pas de disposition légale prise en ce sens, on voit quand même qu'il y a émergence d'initiatives sur le terrain. Alors, d'autres forces sont peut-être intéressantes à pointer, mais qui sont plus liées vraiment aux modules de sensibilisation, formation en eux-mêmes, que j'ai pas beaucoup développé ici, mais donc on a choisi une approche méthodologique particulière, c'est-à-dire que quand je vais dans les administrations communales pour sensibiliser, donc jusqu'à présent, on a fonctionné avec deux demi-journées. La première demi-journée, elle est plus théorique, même si c'est très participatif, mais voilà, on découvre ensemble, mais tiens, à quels indices est-ce qu'on peut être attentif pour poser une hypothèse illettrisme auprès de 10 citoyens qui vient à la commune. Et une fois qu'on a posé cette hypothèse illettrisme, mais comment est-ce qu'on peut adapter son travail ? Donc ça, c'est plutôt le contenu de la deuxième demi-journée. Moi, je ne viens pas avec des solutions toutes faites, c'est-à-dire qu'on... On réfléchit ensemble, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais modifier ? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait, quand on est illettré et qu'on veut accéder à mon service ? Et donc, en fait, chaque groupe construit ses propres pistes de solutions. Voilà. Et donc ça, on l'a pratiqué comme une force aussi, cette approche méthodologique. Et alors le fait que ce soit un format court, puisque c'est donc 2 demi-journées, c'est à la fois intéressant parce que les travailleurs ne sont retirés de leur service que 2 demi-journées, et en même temps c'est court, c'est très court aussi, parce que en fait c'est une fois que le module de sensibilisation est terminé, c'est là que tout commence, et vous l'avez vu avec ce que Anne-Laure a expliqué, c'est tout le travail qu'elle a poursuivi par elle-même par la suite. Donc c'est parfois un peu court aussi pour pouvoir aller plus loin, aller de l'avant, en sachant que nous, ce qu'on propose, c'est quand même un partenariat, et que même au-delà de ces 2 demi-journées, on reste disponible pour revenir participer à un groupe de travail, alimenter la réflexion, et pourquoi pas même proposer des allers-retours avec un groupe d'apprenants qui pourrait aussi se pencher sur certaines situations, certains documents administratifs à modifier. Voilà. Alors, au niveau des faiblesses, Anne-Laure l'a bien illustré aussi, c'est que, en fait, moi, je sensibilise des personnes qui font partie de services de l'administration communale, et que pour que les choses bougent, après, ça dépend un peu de ces personnes. Et peut-être que ça aurait un avantage à être un peu plus structurel. Simon, qu'on a vu dans la vidéo au début, qui était au téléphone, là, en fait, lui, il a finalement quitté l'administration communale pour d'autres projets de vie. Or, c'était le responsable du service population. Là, je me dis, zut, il faudrait recommencer avec son remplaçant ou sa remplaçante, en fait. Toi, tu avais aussi quelque chose à expliquer.
Oui, c'est vraiment dans le même sens. C'est un peu mon regret, mais aussi ça peut être une perspective pour l'avenir. Donc, je veux dire, tout n'est pas perdu. C'est qu'effectivement, après la sensibilisation, c'est ma démarche personnelle qui a fait que j'ai décidé d'adapter mes pratiques de travail. Et ce que je pense qui serait intéressant, c'est que dans chaque service de l'administration, il y ait la mise en place de pratiques de travail adaptées, notamment pour le public illettré, que ça aurait tout son sens, que ce soit une réponse qui soit plus structurelle, organisée au niveau de l'administration, plutôt que ponctuelle, et qui dépende effectivement d'une personne qui peut aller et venir. Et surtout que mais ça rentrerait vraiment dans la stratégie, en tout cas pour ce qui me concerne, de la ville de Nivelles, qui prévoit dans son fameux plan stratégique transversal, ce qu'on appelle le PST, le fait d'être une administration qui est accessible à ses citoyens et qui offre des services de qualité. Et le fait d'avoir des pratiques de travail adaptées, ça rentre vraiment dans ces objectifs-là. Donc ça vaudrait la peine d'avoir une réponse plus globale au niveau de l'administration.
Et donc, dans chaque module, donc en fait jusqu'à présent, les personnes s'inscrivaient dans les modules de sensibilisation formation sur base volontaire. Moi, j'ai eu chaque fois 10 de participants par module, et souvent, ce sont des personnes qui sont retirées donc de leur service, qui viennent seules. Et puis, une fois qu'elles sont sensibilisées, qu'elles ont envie de faire changer les choses, elles retournent seules dans leur service apporter ça. Donc, c'est pas toujours facile non plus après pour faire bouger les lignes.
Et ce que je voulais aussi préciser pour ça, c'est que la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose, une formation qu'il faut vivre et expérimenter, à mon sens, pour bien s'en imprégner et éventuellement après adapter ses pratiques. Ça veut dire que, moi j'ai pas de collègue, mais si j'avais un collègue, je suis la formation et après je vais lui expliquer la formation. Je pense que c'est mieux si on vit soi-même la formation. C'est vraiment une formation dont on doit s'imprégner pour après pouvoir en retirer des bénéfices. Donc ça vaut la peine que ce soit chaque personne qui la suive, et même si un collègue peut venir rapporter ce qu'il a appris, l'expérimenter, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de faire.
Merci. Alors, on voulait terminer avec quelques perspectives, puisque ici, on a beaucoup parlé de Nivelles. Sur Nivelles, on va normalement entamer une 3e session de sensibilisation formation en 2024. On a aussi sensibilisé deux groupes à l'administration communale de Braine-l'Alleud. On est en négociation avec Ottigny-Louvain-la-Neuve et on voudrait ensuite agir au niveau de Tubize. Alors pourquoi ces quatre entités-là, en tout cas pour le moment? C'est parce que ce sont les quatre lieux où Lire et Écrire Brabant-Wallon a des formations d'alphabétisation. Voilà, c'est une stratégie... on a choisi. Et moi, je me suis dit aussi que ce serait peut-être bien que je me forme au français facile à lire et à comprendre, parce que voilà, ce serait un atout supplémentaire quand j'interviens au niveau des administrations communales, ou alors de faire de la SBL inclusion des partenaires du projet. En fait, ça pourrait être très chouette aussi qu'ils puissent intervenir à un moment donné. Voilà, c'est des réflexions, des perspectives. Il n'y a encore rien d'abouti à ce niveau-là.
Oui, et pour ma part, moi, ce que j'ai mis en évidence comme perspective, c'est de continuer la prise en compte du public illettré, parce que j'ai commencé par l'adaptation de mon courrier de proposition de médiation, mais clairement, ça suffit pas. Il faut aller plus loin dans la démarche. Et d'ailleurs, je suis preneuse de vos suggestions, de vos bons conseils, vous qui êtes un public voilà, de première ligne, expert dans vos domaines. Donc moi, vraiment, je m'inspire de vos bonnes pratiques. Si vous en avez, je suis preneuse. Mon souhait, c'est aussi de continuer à travailler avec le réseau qui est à ma disposition, et notamment avec mes collègues médiateurs des autres arrondissements judiciaires. Et justement, récemment, la semaine passée, on a eu une réunion en plateforme qui regroupe les médiateurs qui soient francophones ou néerlandophones, et on peut échanger les bonnes pratiques. Donc clairement, le courrier que j'ai adapté, il a déjà été diffusé auprès de mes collègues. Certains s'en sont inspirés. Il a été aussi traduit en néerlandais. Et on envisage pour la suite encore des améliorations. Et ce dont on a parlé récemment, c'est justement le fait d'avoir un partenariat avec l'écrivain public qui pourrait exister dans chaque ville et commune, et où on pourrait relayer et renvoyer les citoyens qui en auraient besoin. Aussi permettre aux personnes qui le souhaitent d'être accompagnées d'une personne de confiance, notamment lors des rencontres de médiation. Et alors la dernière idée que j'ai trouvée super à voir comment ça peut se mettre en pratique, c'est d'insérer dans le fameux courrier de proposition de médiation un QR code qui renvoie vers un lien audio, où là, on pourrait expliquer en quoi consiste la médiation. Alors évidemment, de manière générale, ce ne serait pas ciblé sur le cas particulier qui concerne la personne, parce que alors là, ce serait un QR code pour chaque personne infaisable, mais par contre, qui exprime ce en quoi consiste la médiation de manière générale oralement. Voilà, ça, c'est une piste qu'on a envisagée après avoir commencé faisable au niveau informatique. Mais en tout cas, on est encore en réflexion pour toujours continuer à améliorer nos pratiques.
Et alors, donc, jusqu'à présent, 47 travailleurs d'administration communale ont été sensibilisés sur la province du Brabant-Wallon et 40 chefs de service. Et alors, rêvons un peu, avec de l'ambition et des moyens supplémentaires, et au-delà de la régionale de Lire et Écrire Brabant-Wallon, pourquoi pas créer un label qualité ville d'accueil pour les illettrés. Voilà. Mais après, il faut trouver une dénomination un peu plus fun. Moi, j'ai pas encore trouvé. Et donc, c'est plutôt une question qui concernerait alors le mouvement Lire et Écrire, et puis la création d'un label. Ça demande des moyens financiers quand même supplémentaires. Et je ne sais pas, on pourrait imaginer quels seraient les critères à remplir pour recevoir le label. Par exemple, garantir que la commune garantisse un nombre minimum de fonctionnaires qui seraient sensibilisés chaque année, ou bien de pouvoir fournir des documents qui sont traduits en français facile à lire et à comprendre, aussi de maintenir un accueil humain et de proposer une personne référente, experte en illettrisme, en interne à la commune, etc. Voilà, donc j'avais envie de terminer sur ce genre de perspective.
Alors, on a prévu aussi c'est une petite session de questions-réponses, si vous en avez, juste avant de faire la pause de midi.
Je voulais juste savoir, est-ce que vous faites appel à des interprètes? Est-ce que vous en avez sur place ou est-ce que vous avez parfois besoin d'interprètes? Ou bien ça, c'est quelque chose que... Ça se passe comment?
Oui, parfois on a besoin d'interprètes. On a la chance, en tout cas donc pour la ville de Divelle, là je vous parle là, vraiment plus localement. Le CRIBEWE, donc le Centre Régional
d'Intégration.
D'intégration.
Du Brabant,
merci. qui met à disposition gratuitement des interprètes dans toute une série de langues ou dialectes. Et j'ai la chance de pouvoir collaborer avec eux. Et donc, ça, c'est vraiment encore le réseau qui permet, grande chance, de pouvoir faire appel gratuitement avec eux, si pas. Alors, c'est possible et on doit, administration oblige, avoir un marché public pour faire appel à des interprètes payants. Mais ça s'est déjà fait aussi quand ça, c'était pas possible au niveau du CRIBEWE.
D'accord. Ok, merci.
Oui, j'étais un peu frustrée dans la présentation du sociologue tout à l'heure. J'étais un peu fatiguée parce que c'est toujours... On parle toujours les choses en termes de rapport de pouvoir, et c'est une notion qui, moi, m'épuise. Et ce que j'aime bien dans votre intervention, c'est qu'on parle de l'alphabétisation, mais c'est au service de la population. Quand vous parlez du critère de qualité, on reviendrait à un critère de qualité humain, mm-hmm. un critère d'accessibilité pour tous. Je veux dire, moi, le premier courrier que vous avez montré, je ne sais pas le lire, hein. Ouais. Je suis épuisée, même le It's Me, je ne l'utilise pas, ça m'épuise. Avant de je le regarde, je ne le fais pas. Et je ne suis pas analphabète. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu de la position un peu plus large, que ce soit d'une administration, peut-être d'une société, enfin bon, là je dis un peu utopique, mais de poser les choses d'un point de vue au service du fonctionnement, du citoyen, de la personne. Et qui devrait, ça devrait être ce paradigme-là qui devrait être la base. Et depuis c'était déjà foireux avant le Covid. Depuis le Covid, c'est n'importe quoi. Mm-hmm. Tout le monde a viré sa cutie vers quelque chose de complètement, et il a trouvé son compte parce que, en fait, ça fait des économies de personnel humain. Mais à un moment donné, faut voir ce qu'on veut. Et donc voilà, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous entendre parce que je retrouve enfin une pratique qui est d'un point de vue humain, dans le rapport avec les gens, au service des citoyens, enfin vers d'un point de vue de solution et non pas de procédure, donc, et de solution. Et je trouve que c'est super, voilà.
Merci. Ce sont les arguments qu'on met en avant quand on essaye de négocier ce partenariat avec les administrations communales. Et moi, chaque fois, j'épluche le PST, donc le plan stratégique transversal de la commune que je vais rencontrer ou du politique. Parce que souvent, en fait, c'est repris comme objectif dans les PST. Donc, c'est l'occasion d'appuyer. Ouais.
C'est super, c'est vrai que c'est très rafraîchissant de voir ces bonnes pratiques. Moi, ma question est la suivante, est-ce que c'est les administrations communales qui vous font la demande ou c'est vous qui allez toquer un peu à toutes les portes et leur dire on a ça à vous offrir
Oui, on va toquer à toutes les portes. Ouais.
Et juste du coup, si c'est vous qui allez toquer, vous avez affaire à un échevin, à un directeur de cabinet, à qui?
Alors, jusqu'à présent, c'était avec un échevin. Et on travaille aussi avec les responsables des plans de cohésion sociale. Ouais. Voilà. Pour les trois communes avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent.
D'où l'importance du métier de sensibilisation.
Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, d'avoir des moyens, en fait, pour ça. Chez nous, dans la régionale, on est un temps plein et demi pour la sensibilisation. Oui.
C'est bien, quoi. Oui. Je me pose la question, vous dites que c'est vous qui allez vers, donc ces communes, et ma question me frustre un petit peu parce que c'est des villes quand même assez, entre guillemets, riches, comme Louvain-la-Neuve, Braine-l'Alleud et tout ça. Pourquoi on ne choisirait pas des villes comme la Louvière ou des villes plus autour de Charleroi ou Bruxelles, bon. Mais je veux dire, il y a des villes beaucoup plus pauvres et c'est là où il y a le plus d'illettrisme
Et on choisit des villes comme Louvain-la-Neuve, Braine-l'Alleud ou Nivelles, qui sont plus riches.
Ah oui, mais c'est parce que moi je travaille pour lire et écrire Brabant Wallon, donc j'agis dans la province du Brabant Wallon. Alors le Brabant Wallon est en effet une province riche, mais avec de grosses disparités entre l'ouest, le centre et l'est du Brabant Wallon.
Vous ne faites pas d'alphabétisation à Waterloo.
Ah, on a eu des groupes d'alphabétisation à Waterloo, oui. Et en fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que dans la province du Brabant Wallon, c'est d'autant plus difficile de toucher les personnes précarisées parce que elles-mêmes ont plus difficile à être visibilisées en fait. On va faire la démarche. Ouais. Mais il y en a. Il y a des personnes en situation d'illettrisme en Brabant Wallon. Et donc oui, on va la prochaine action essayer de toucher la commune de Tubize. Et comme je disais, c'est en lien avec les lieux où on a des formations d'alphabétisation. Et on a aussi donné priorité aux communes où on avait des difficultés à toucher des apprenants potentiels. Et à Tubize, les formations sont full. On n'a pas de problème pour avoir des apprenants dans nos formations. C'est pour ça qu'on l'a mis à la fin, en fait, et qu'on a d'abord travaillé sur un Nivelles et Braine-l'Alleud. Parce que là, on a vraiment des difficultés à avoir des personnes qui viennent en formation d'alphabétisation. Voilà.
Pour répondre peut-être à la question de madame, en fait, lire et écrire est organisé en 9 régionales et chacune a son territoire propre. Et donc, même si Delphine était appelée par la rivière, à moins de collaborer avec son homologue sur la région Centre-Morinvage, elle n'a pas les possibilités de travailler. Mais la région Centre-Morinvage, la semaine passée ou il y a 15 jours, faisait aussi une sensibilisation à travers tous les CRIC, à travers le CRIC, sa région et toute la plateforme, ils ont organisé un réseautage aussi. Donc je veux dire, ça se fait dans les différents lire et écrire, dans les différentes régions.
Oui, mais parfois autrement, avec d'autres partenaires, une mise en place un peu différente. Oui ?
Avez-vous une idée, même vague, des résultats que produit votre courrier simplifié ?
Je ris parce que je m'attendais à cette question. Donc ça fait un peu plus d'un an que c'est mis en place. Et pour faire une évaluation, très clairement, il faudrait des moyens pour le faire. En fait, déjà, moi, je ne sais même pas comment on pourrait faire pour évaluer l'impact que ça a. Et puis, j'imagine qu'il faudrait une étude, de quel ordre, je ne sais pas. Et en plus, qui nécessiterait des moyens financiers. Donc, clairement, il n'y a rien qui a été mis en place, sauf mon propre sentiment. Et donc, c'est ce que je peux vous apporter aujourd'hui, pas plus. Mon sentiment, déjà, c'est par rapport à mon confort de travail. Ça concerne que moi, mais c'est quand même important de le dire. C'est-à-dire que moi, je me sens plus à l'aise dans ma manière de travailler et de ma manière d'entrer en contact avec le citoyen de cette manière-là. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ce que je sais aussi, c'est que d'autres collègues ont adapté leur courrier et le retour qu'on a, le sentiment qu'on a tous ensemble, c'est que c'est un pas, mais ça ne suffit pas. Malgré tout, ce courrier, même adapté, il soulève des incompréhensions et ça reste un frein. Donc c'est une étape, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en recherche constante d'amélioration et d'autres moyens d'action. Mon premier moyen sur lequel j'ai souhaité agir, c'est le courrier, parce que c'est clairement ma première, c'est mon seul, parfois mon seul moyen d'entrer en contact avec le citoyen, parce que je ne dispose que d'une adresse postale. Mais après, clairement, mon souhait, c'est d'entrer en contact physique avec la personne, que ce soit par téléphone ou alors par une rencontre. Mais donc, ok, on a cette ligne aussi, mais mon objectif, c'est d'aller voir tout autour comment on peut améliorer les pratiques. Donc, je sais que ça a un effet, mais limité, et qu'on a besoin d'autres moyens d'action.
Est-ce que par hasard, vous avez pu quantifier déjà le nombre de demandes de médiation qui vous seraient arrivées de la part des personnes que vous avez pu identifier comme précarisées ou pas ?
Alors moi, je n'ai pas la possibilité de les identifier ou pas sur base d'un procès-verbal.
où je vais avoir des informations très succinctes sur la personne. C'est pour ça que le courrier que j'ai dit adapté, en fait, je l'adresse à tout le monde de la même manière, parce que moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire avant d'envoyer le courrier. Ce que je sais aussi, c'est que depuis que j'envoie ce courrier adapté, j'ai plus de personnes qui me contactent pour en savoir plus sur la médiation. Donc ça, c'est quand même un élément qui me permet de dire que si on reçoit simplement le courrier du fameux fonctionnaire sanctionnateur qui propose aussi la médiation, j'ai peut-être 25% des personnes qui m'appellent. Moi, après ça, je renvoie un nouveau courrier pour réaffirmer « Oh, j'existe, je suis là, j'ai un service à vous proposer ». Mais là, j'ai encore peut-être 15% de personnes en plus qui m'appellent. Et moi, j'arrive à un chiffre entre 40 et 50% de personnes qui réagissent et qui se manifestent auprès de moi pour une proposition de médiation. Donc voilà, j'ai des petits éléments qui me permettent de quantifier les choses et d'évaluer un peu.
Madame aussi avait une question ?
Non, je me disais justement, enfin, je trouve l'initiative intéressante parce qu'effectivement, le problème c'est qu'on va souvent tomber dans l'infantilisation quand on va faire des dessins, des choses comme ça. Mais en vous écoutant, je me rends compte qu'en fait, il y a différents niveaux d'alphabétisation chez les personnes. Il y en a qui ne le sont pas du tout, d'autres moyennement, d'autres beaucoup. Et donc, ce courrier-là va toucher ceux qui savent déjà lire, écrire, comprendre. Mais on restera quand même en dessous pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout la langue. Et en fait, c'est très difficile d'avoir un outil qui fonctionne pour tous les niveaux d'alphabétisation en fonction de chaque personne. Et en plus, vous ne savez pas à qui vous envoyez, donc c'est très complexe. Mais moi, je trouve l'idée très intéressante. Nous, on travaille en CPS. Je trouve que les notifications CPS sont aussi très légales, réglementaires et incompréhensibles pour les gens qui nous recontactent pour savoir qu'est-ce qu'on a mis dedans, alors qu'on pourrait le simplifier dès le départ, par exemple, avec avec un lexique. C'est très intéressant.
Voilà. Vous avez raison de mettre en évidence le fait qu'il est un courrier dit adapté, mais clairement il reste des freins et qu'on n'a pas besoin, on ne doit pas être forcément illettré pour ne pas comprendre le courrier qu'on nous adresse tellement spécifique avec le vocabulaire légal.
Si je peux me permettre, alors quand on a préparé l'intervention d'aujourd'hui, tu disais qu'avec les experts du vécu, à certains moments aussi, tu avais dû leur rappeler que ce courrier s'adressait à tout type de personnes, parce qu'eux auraient voulu peut-être encore plus simplifier ou vulgariser le document, mais avec parfois un vocabulaire qui rendait peut-être le courrier illégitime, mais on peut faire référence à l'intervention qu'il y a eu juste avant.
On a dû trouver l'équilibre, c'est sûr. Pas tout à fait évident, donc c'est ça que c'était un exercice très très délicat.
Voilà. On va prendre la dernière question parce qu'après on va un peu. Par rapport au courrier qui est adapté, c'est super. Je pense qu'il pourrait y avoir carrément, parce que vous êtes obligé de mettre des termes juridiques sur ce courrier, et c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'on pourrait imaginer carrément un autre courrier en parallèle qui serait rajouté juste avec des termes qui. Des mots flash, même utiliser des couleurs, mais ce courrier serait vraiment hyper simplifié pour que l'accessibilité soit accessible, enfin que ce soit accessible à beaucoup plus de personnes, à un public, parce que moi je vois bien ce courrier-là, les apprenants ils vont le voir, ils vont se dire de la même manière, c'est pas possible, ou ils vont voir un numéro de téléphone, ils vont se dire oui, ça, on va téléphoner, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous expliquer ça, en espérant qu'ils aient un interprète à côté d'eux qui pourrait leur expliquer vos mots, etc. Mais je pense que le fait de mettre juste des mots en grand, vraiment les mots importants, et de mettre ça en parallèle avec le courrier qui est déjà vraiment bien adapté, ça pourrait aider, parce qu'il y a tellement de personnes qui se retrouvent devant ce genre de courrier et qui vont être complètement désemparés. Moi, j'en vois bien les apprenants et qui se retrouvent avec une tonne de courriers, qui ne savent plus quoi faire, qui coulent sous les dettes et qui espèrent qu'on va pouvoir faire quelque chose pour eux. Mais c'est inaccessible, ça reste inaccessible à tellement de personnes.
Et voilà, je note la suggestion. Merci, c'est d'avoir, alors j'ai compris, un courrier à côté qui est, oui. Où on reprend vraiment certains, que quelques mots-clés qui sont mis en grand.
Qui serait par exemple déjà attention.
En couleur.
Qui dit que le courrier est très important. Le QR code, je trouve ça c'est super, ça explique, mais déjà l'explication sur le QR code, ça doit être quelque chose de très très simplifié aussi.
ça ne peut pas être un texte continu, vraiment, ça doit être quelque chose avec des mots qui ressortent, et pareil, sur un courrier écrit, ça doit être des couleurs, je ne sais pas, ce qui est possible, des dessins, le plus de dessins possible. Oui, et peut-être un accès vers des vidéos avec des dessins, je ne sais pas ce qui est possible de faire.
Mais donc, qui joue, mais
si vraiment on veut atteindre...
Les QR codes, ils ne sont pas tous très...
Ben, oui, mais ça pourrait être quelque chose qui se propage, le QR code, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas encore beaucoup, mais si ça intervient sur les courriers comme ça, ça va se propager, et les apprenants, enfin les personnes illettrées, et même qui, sont qui n'arrivent pas à parler français, pourront se dire à un moment donné, ah, ça va nous aider. Parce que ça va devenir quelque chose d'habituel. Ouais. Donc il faut le temps aussi qu'ils s'habituent à ce genre de choses.
Mais, enfin, juste, moi, ici, donc, Anne-Laure, de sa propre initiative, après la sensibilisation, a fait appel aux experts du vécu du service public intégration sociale. Mais moi, ce que j'évoquais un partenariat lire et écrire et administration communale, dans le sens où je pense que ça peut être aussi très porteur qu'un service de l'administration communale puisse à un moment donné rencontrer un groupe d'apprenants et en fait de travailler à cette simplification ensemble. Ça peut être sur un document, mais ça peut être aussi, tiens, pour arriver au service social, moi je me perds tout le temps, je sais jamais sur quel bouton de l'ascenseur je dois appuyer, et donc ce serait de réfléchir ensemble, et tiens, qu'est-ce qui vous aiderait, vous, pour arriver jusque chez nous, de quoi vous auriez besoin, et donc ce serait de voir ensemble, mais tiens, localement, qu'est-ce qu'on peut faire, et avec qui, et voilà, d'avoir ces échanges. Et alors c'est très porteur aussi pour le groupe d'apprenants dans le cadre de sa formation qui découvre un service. Ici, moi, j'aurais bien aimé, mais ça peut encore se faire, que les apprenants Nivelles puissent rencontrer Anne-Laure, découvrir ce service de médiation. Qu'est-ce que c'est qu'un règlement général de police voilà, je pense que c'est aussi très chouette au niveau pédagogique pour les apprenants, en fait, de s'inscrire dans ce genre de projet.
Je suis désolée, je vais vous proposer de continuer la discussion pendant la pause de midi. Delphine et Anne-Laure sont encore là. Je vous invite à poursuivre.